بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dans notre درس précédent, ذكرنا حقين من حقوق الزوج. Nous avons cité deux droits parmi les droits de l'époux, qui sont l'autorité qu'il a sur elle et ce qui en découle son obéissance dans l'absolu tant que cela n'est pas dans une marsiyah, tant que cela n'est pas dans une chose que Allah Azzawajal a rendue interdite. Alors à ce moment-là, la femme n'a pas à obéir. لأن الطاعة في المعروف. يقول ما زلنا في حقوق الزوج. Donc maintenant, on est toujours dans les droits de l'époux. ثالثا طاعته في الفراش امتناعها عن ذلك لغير عذر حرام عليها. Donc troisième droit, c'est qu'elle doit lui obéir dans les rapports intimes. Et que si elle sent elle l'en prive, cela lui est illicite, sauf bien sûr avec une excuse. Les hadiths Abi Huraira radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قال اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان يجئ لعنتها الملائكه حتى تصبح متفق عليه وفي روايه قال فبات غضبان عليها. Donc dans le hadith d'Abu Huraira, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'homme appelle sa femme pour avoir des rapports avec elle et qu'elle refuse de lui répondre, alors les anges la maudissent jusqu'au matin, c'est-à-dire là on parle du soir, à savoir que cette interdiction n'est pas que pour la nuit, mais là c'est de façon générale, c'est dans la nuit que se déroule ce genre de choses. Mais en réalité, d'autres hadiths viennent que, même si elle est sur le four en train de faire du pain ou qu'elle est occupée, qu'il l'appelle, elle doit répondre. Et il dit également dans le hadith, si elle y passe la nuit, on est en colère contre elle. وَفِي رِوَايَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ. Et que les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle accepte. Ça veut dire que c'est plus long encore que la nuit. Là, c'est jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter l'appel de son mari. وَفِي رِوَايَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَى كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا. Et chez Muslim, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je jure par celui dans mon âme et dans sa main, que si l'homme appelle sa femme pour avoir des rapports et qu'elle refuse, alors celui qui est aux cieux sera en colère contre elle, jusqu'à ce que l'homme soit satisfait d'elle. Donc on voit que le fait qu'Allah Azzawajal se mette en colère, et la colère est parmi ses sifat, comme il y a l'iqu bihi, subhanahu wa ta'ala, wa lisa kamislihi shay, wa samir basir, toute chose qui amène à la colère d'Allah Azzawajal est classée comme étant parmi les kaba'ir, parmi les grands péchés. Donc c'est une chose à ne pas prendre à la légère. Et bien sûr, ces hadiths sont venus d'un côté menaçant pour indiquer la gravité de l'acte. Quoi qu'il en soit, l'homme doit être une personne raffinée et avoir du tact, c'est-à-dire que s'il a envie de son épouse, qu'il fasse en sorte qu'elle également ait envie de lui. D'accord ? Il faut que ça aille à double sens, c'est mieux. Là, ces hadiths sont venus pour dire si vraiment il veut, elle doit obéir. Mais est-ce que cela veut dire que l'homme vient forcément et fait son besoin et s'en va? La femme, elle a un haq également dans les rapports. D'ailleurs, les ulama disent que ce qu'on appelle le hazl. Le hazl, c'est l'éjaculation externe, lorsque l'homme éjacule à l'extérieur. Et cela dans le but de ne pas avoir d'enfant. C'est le seul moyen de contraception qui soit permis. Bon, il y a aussi les préservatifs, c'est permis en soi. Mais bon, en quoi tout ce qui est pilule ou autre, cela ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, ce que les compagnons ils ont fait, eux, c'est le hazl. Ils le faisaient au moment où le Coran descendait. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était au courant. Et les ulama disent que le hazl, on ne le fait mais qu'avec la permission de l'épouse. C'est pas tu te retires alors que ton épouse, par exemple, elle ne veut pas ou elle n'a pas encore eu son plaisir. Les meilleurs des rapports sont les rapports partagés. Faut le savoir. D'accord ? Donc les hadiths, comme quand le ta'ala, « Wa'ashiruhna bil ma'louf » et vivez avec elle dans le convenable, ça veut dire que même par des rapports avec ton épouse, fais en sorte qu'elle aussi, cela lui convienne et que ça lui plaise. Autant que possible. Soma yakol, Et là, c'est une masala qui est assez importante. Et à quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme dans la rue. Et après qu'il l'ait vue, il est parti rejoindre sa femme Zainab, qui était occupée. Et de là, il a eu des rapports avec elle. ثُمَّ خَرَجَ لِأَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً تُقْبِلُ فِي سُورَةِ الشَّيْطَانِ وَتُدْبِرُ فِي سُورَةِ الشَّيْطَانِ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّهَا فِي نَفْسِهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمَدِ لِامْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a fait cela, il a parlé à ses compagnons en disant que la femme sort sous l'image de Shaitan. Elle se déplace sous l'image de Shaitan. C'est-à-dire que Shaitan en fait l'embellit. Parce que la femme sort de chez elle, dans la rue, elle est embellie. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous voit une femme, c'est-à-dire, et qu'elle lui a plu, cela ne permet pas de regarder. D'accord? Mais si jamais il est arrivé que tu aies vu, malgré toi, furtivement, une femme, et que cette femme-là t'a fait un effet, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'homme retourne auprès de sa famille, c'est-à-dire auprès de sa femme, pour avoir des rapports avec elle, car cela repoussera ce qu'il a ressenti en lui. Et il a dit dans une version, si l'un d'entre vous voit une femme qui lui plaît, et qui rentre dans son cœur, alors qu'il a des rapports aussitôt avec sa femme, et cela fera dissiper ce qu'il ressent comme attirance. Dans une version, on a dit, car ton épouse a la même chose que cette femme. Donc en réalité, c'est Shaitan qui te l'a embelli à tes yeux, mais concrètement, quand tu retournes voir ta femme, et que ta femme, justement, l'importance qu'elle doit répondre favorablement au mari lorsqu'il l'appelle, c'est qu'il y a différentes raisons. Et parmi elles, celle-ci. Qu'elle ne sait pas, c'est son mari, il a vu une chose et il veut la faire dissiper, ou il a une forte envie, et la femme doit l'accepter à ce moment-là. Car les envies des hommes ne sont pas comme celles des femmes. Et vous le savez, vous êtes conscient qu'aujourd'hui, même il y a toujours eu cela, ce qu'on appelle des agressions sexuelles. L'homme, lorsqu'il est épris d'une envie forte d'avoir des rapports, vous savez ce qu'il peut faire. Il peut violer. Il peut violenter une femme dans la rue, une étrangère. Les viols, c'est une chose qui est monnaie courante dans les pays, surtout au pays de Kouf. Et t'en as même, ils arrivent au meurtre pour pouvoir camoufler ce viol. Et ainsi de suite. Donc un homme peut perdre la raison à cause d'une femme. Et on l'a pris dans le hadith la dernière fois, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ma raïtu min naqisat al-aql wad-din az-zahabu lil-lub ar-rajul hazim min ihdakunna » Je n'ai pas vu de créature à la raison réduite et à la religion réduite faire perdre la raison à un homme déterminé comme l'une d'entre vous. On a expliqué que cela fallait dans les deux sens. Dans quel sens? Dans le sens que cette femme-là peut avoir un comportement qui fait que son mari rentre d'une colère folle à cause de son manque de raison ou quoi. Ou le contraire, qui peut être attiré par elle au point de faire des choses incroyables et des choses inimaginables. Et parmi elles, le fait que des hommes en arrivent à violer des femmes par envie d'elles. Et on parle de gens sans scrupules, bien sûr. On parle pas des croyants plus craintifs. Mais ça arrive chez l'homme. L'homme, il est comme ça. D'accord? L'homme, il est comme ça. Donc, ce comportement que la femme doit avoir d'accepter que son mari ait envie d'elle, et ne pas le refouler, c'est une chose qui est très importante. D'accord? C'est une chose qui est très importante. Et parmi ses causes, celle-ci. Car elle ne sait pas ce que son mari l'a vu auparavant, et ce qu'il a en tête. Naam. Et dans le hadith, il dit que avoir des rapports avec ton épouse, en réalité, dissipe ce que tu ressens, parce qu'en fait, ton épouse, elle a ce que l'autre, elle a, et peut-être mieux encore. C'est juste Shaitan qui te l'a embellé à tes yeux. Tu l'as vu d'une façon, alors que ton épouse est probablement plus belle qu'elle, de base. Et plus attirante qu'elle, de base, à tes yeux. Et ton épouse connaît mieux la façon de te donner du plaisir. Là, c'est une étrangère, tu la connais même pas. Mais Shaitan l'a embellé à tes yeux. Donc, ne pas se faire avoir. D'accord? Ne pas se faire avoir. Et se rappeler toujours, de toute façon, que tu vois comme femme dans la rue, ces femmes-là que tu vois, et principalement, elles ne sont pas pour toi, là je parle aux frères, aux hommes. Elles ne sont pas des femmes pour toi. Et combien se sont laissés avoir, ont commis le haram, et ont fini par regretter amèrement. Car en réalité, tu aurais été voir ta femme, tu aurais connu mieux encore. Donc, ne pas se faire avoir par Shaitan. D'accord? Et d'où le fait de baisser le regard dans la rue, pour les hommes, mais comme pour les femmes. Mais on sait, nous les hommes, que même en baissant le regard, des fois on est amené à voir des choses malgré nous. D'où le hadith. « Iza absara ahadukum » si l'un d'entre vous voit. D'accord? Et à ce moment-là, le remède, on l'a. D'accord? Le remède, on l'a. Du moins l'un des remèdes. طيب يقول سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل لفراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل والصيام والنهار وصيام النهار على طاعة الزوج فهل يجوز ذلك؟ فأجاب لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلب إلى فراشه وذلك فرض واجب عليها وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع فكيف تقدم مؤمنة النافلة على فريضة انتهى المراد. Donc Cheikh Al-Islam est interrogé à propos d'un homme qui appelle son épouse pour avoir des rapports avec elle, alors qu'elle, elle jeûne la journée et la nuit, elle fait salat. Et toutes les fois où son mari l'appelle, d'accord, elle refuse à cause de cela. Elle dit je fais salat, je fais qiyam al-layl la nuit. Et la journée, quand il va avoir des rapports avec elle, elle dit je jeûne. D'accord? Donc il a dit, Cheikh Al-Islam, cela ne lui est pas permis avec unanimité des musulmines. Mais il est obligatoire à cette femme de répondre et d'obéir à son mari lorsqu'il appelle pour avoir des rapports. Car cela est une obligation sur elle. Alors que qiyam al-layl, c'est un acte surrogatoire. Et le jeûne de la journée également. Et là, il ne parle pas de Ramadan, bien sûr. Dans Ramadan, c'est interdit. Il parle d'un jeûne surrogatoire hors Ramadan. Donc il a dit, comment est-il concevable que la croyante fasse devancer une chose surrogatoire sur une chose obligatoire? Et que la femme sache que ce n'est pas une perte pour elle. Si elle jeûnait et que son mari l'a appelée, qui a rompu son jeûne, Allah sait qu'elle allait jeûner, donc elle a la récompense de son jeûne, et en plus la récompense d'avoir obéi à son mari. Donc ce n'est pas une perte pour elle. Ça ressemble au hadith de Jureyj, qui faisait salat, et que sa mère l'appelait, et qu'il lui préférait faire salat. D'accord? Et après sa mère, dans la colère, a invoqué contre lui, et de là, Azza wa Jal a exaucé l'invocation de sa mère contre lui, pour une salat surrogatoire, car répondre à sa mère était obligatoire. Donc là, il en est de même pour la femme. Si son mari l'appelle et qu'elle fait une chose qui n'est pas obligatoire, alors à ce moment-là, elle doit répondre favorablement. Et c'est là qu'on voit qu'en islam, il n'y a pas que ce phénomène dont les koufars parlent aujourd'hui, qui s'appelle le viol conjugal. Des épouses sont mariées, leurs époux veulent des rapports, elles refusent, donc ils les prennent de force et après elles portent plainte. Mon mari m'a violée. Ça n'existe pas, c'est un mari qui viole. En islam, si le mari veut avoir des rapports et que la femme n'est pas indisposée, qu'elle n'est pas malade, d'accord? Elle n'est pas malade non plus, elle est en état, parce que si elle est malade, elle est excusée, et le mari doit faire preuve de compassion. Si elle a ses menstrues, comme cela va venir, il n'est pas droit d'avoir de rapport avec elle, direct. Il peut avoir ce qu'on appelle des préliminaires, des caresses, des câlins, qui même en arriver à avoir un orgasme, mais pas avec l'acte de pénétration. Car à ce moment-là, il se contacte avec du sang qui est impur, et cela n'est pas permis. Mais en dehors de cela, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, à part l'acte direct, le rapport intime direct. D'accord? En dehors de cela, si l'homme a des besoins et qu'il appelle son épouse, alors qu'elle répond favorablement, et bien sûr, comme on l'a dit, on appelle les frères, on les incite à faire les choses avec tact. D'accord? Avec tact, avec douceur. Et de donner envie à leur femme également. Afin que la chose soit plus agréable et non pas que ce soit comme un fardeau. Bardez alika. قال رابعا ألا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه. Quatrième droit, qu'elle ne doit pas jeûner d'un jeûne surrogatoire alors qu'il est présent sans sa permission. Sans sa permission. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas permis à une femme de jeûner alors que son époux est présent, sauf sans sa permission. Et bien sûr, dans une autre version, il dit « Ghayr Ramadan » en dehors du siyam de Ramadan. Car le siyam de Ramadan, il est obligatoire. Donc, tout jeûne surrogatoire, la femme, à ce moment-là, ne peut l'entreprendre si son mari est présent sans sa permission. D'accord ? Et quelle est la raison? La raison, c'est la cause citée précédemment. Car si son avis, son justement, si elle jeûne et que son mari, il sait qu'il voudra d'elle, alors autant qu'elle ne jeûne pas directement. Et si jamais il lui permet, et après il a envie dans la journée, eh ben, ça va dire tout à l'heure qu'elle aura son jeûne qui sera quand même compté pour elle.
Donc là, on va prendre le khamis, cinquième haq, cité par l'auteur, hafizallahu ta'ala, fi hadha al-kitab. Yaqul, intaqir fi baytihi, wa la takhruj minhu illa bi izni. Donc c'est quoi le cinquième? C'est que la femme doit demeurer dans la demeure de son époux et n'en sortir qu'avec sa permission. الأصل في المرأة أن تقر في بيتها عملا بقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Et demeurez dans vos foyers et ne sortez pas en vous pavanant à la manière de la jahiliya. طيب. Donc ce verset est une preuve en lui-même, car il est venu sous forme impérative, que la femme, de base, la base, c'est qu'elle ne sort pas. Non pas pour la punir ou la priver, mais bien au contraire pour la protéger. Car la femme est exposée aux fitnes des autres, et également, comme on a cité hier, lorsqu'elle sort, Shaitan l'embellit, et elle devient une fitna pour les autres. Taïeb. Donc la base, ce n'est pas elle sort et elle reste, si elle n'a rien à faire, non. C'est qu'elle reste chez elle, et que si elle a un truc à faire, là, elle sort. Il ne faut pas inverser les réalités. Chose qui se déroule aujourd'hui chez beaucoup de femmes, malheureusement. Et comme elles disent, lorsque les maris, mathalen, voient d'un mauvais œil leur sortie ou autre, elles s'en plaignent et elles veulent dire « je suis libre, je dois le sortir », ainsi de suite. Et rappelez-vous dans le premier douze qu'on a appris que, en réalité, le musulman n'est pas libre. Le musulman est sous la régie des lois de l'islam. Kazalik, ce verset de base était descendu pour les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, lorsqu'on argumente par ce verset, يردون بأن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا لغيرهن. Donc déjà, lorsqu'on explique ce jugement en argumentant par ce verset, ils disent non, ce verset-là, c'est propre aux femmes du prophète صلى الله عليه وسلم, pas pour toutes les femmes. On dit ce qui est propre aux femmes du prophète صلى الله عليه وسلم est propre pour toutes les femmes, tant qu'il n'y a pas une chose qui vient le spécifier. D'accord ? Et qui plus est, les femmes du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, justement, d'accord, seraient plus en droit, elles, de sortir que d'autres femmes, car de base, le mariage avec autrui après lui l'aurait interdit. Donc, en réalité, elles sont des mahram juz'iyan li ghayrihin ou li ghayrihi. Elles sont comme une forme de mahram pour autrui, mais un mahram partiellement. Dans quel sens? Que le mariage est interdit avec tout autre homme après sa mort, ce qui ne veut pas dire que les hommes ont droit de les voir ou de les toucher ou autre. Mais le mariage avec autrui après la mort du Nabi sallam est interdit dans l'absolu. Et le comportement qui a été donné aux épouses du Nabi sallam, justement, c'est pour l'enseigner aux autres croyantes, car elles sont l'exemple à suivre. Donc si elles ne sortent pas elles, alors les autres également n'ont pas à sortir. Donc dire c'est propre que à elles, ça non. Pas dans l'absolu. Et n'oubliez pas également le jugement qu'on avait cité la dernière fois, que lorsque la femme sort, Shaitan l'embellit. D'accord? Et là, il y a une faïda que j'aimerais lire avec vous au sujet de du Aïn, le mauvais œil qui peut être porté. C'est un kalam de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit « وَنَفْسَ الْعَائِنِ لَا يَتَوَقَّفْ تَأْثِرُهَا عَلَى الْرُؤْيَا بَلْ قَدْ يَكُونُ أَعْمَى فَيُوصَفْ لَوَ الشَّيْءِ فَيُؤَثِّرُ نَفْسَهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية. Donc il dit que le عين, le mauvais œil, ne se limite pas au simple fait, à une simple vision directe d'une chose. Vous savez, le mauvais œil, c'est lorsqu'on regarde une chose et qu'on la regarde par envie et que cette chose nous impressionne et qu'on ne dit pas Tabarak Allah ou Aroma, afin qu'on ne dit pas Aroma Barik ou Masha Allah, des choses qui la protègent. Lorsqu'on regarde une chose qui nous impressionne, qui nous surprend, quand on dit impressionné, c'est-à-dire dans le bien comme dans le mal, ou autre, une chose belle, une chose enviable ou quoi, on peut atteindre cette chose-là par le mauvais œil. Donc Ibn Qayyim dit qu'en fait, ce mauvais œil peut atteindre une chose sans même avoir eu une vision directe. Par exemple, il dit qu'une personne qui est aveugle, si on lui décrit une chose, d'accord, et que cette chose-là la touche, eh ben, elle peut atteindre du mauvais œil cette chose-là, même sans l'avoir vue. Taïeb. Et il dit que beaucoup de gens, justement, touche les gens, atteint les gens du mauvais œil, non pas par une vision directe, mais par un simple descriptif. Donc regardez là, par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe que le mauvais œil peut toucher une personne sans l'avoir vue? Et aussi, je précise qu'on peut toucher une personne de mauvais œil avec des photos, avec des images. Encore une fois de plus, on met l'attention sur l'interdiction de taswir. Encore le mal qui en découle. D'accord? Donc les gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux en mettant leur bien, leur personne, leur famille, non seulement ils ont enfreint l'agitation en faisant le taswir d'être doté d'âme, par les vidéos, les photos, chose qui est interdite de base, et en plus ils s'exposent à être atteints du mauvais œil par les autres qui vont voir cela. Ça, c'est une parenthèse. Donc on dit que si le mauvais œil peut atteindre une personne sans l'avoir vue, alors que dire lorsqu'on la voit? Et les personnes les plus à même de toucher du mauvais œil et d'être atteintes du mauvais œil sont les femmes. Plus que les hommes. Car les femmes ont plus de jalousie en elles, plus d'envie en elles, plus de regards superficiels en elles que les hommes. Elles se regardent beaucoup les unes les autres, plus que les hommes entre eux. C'est une réalité. Et regardez bien que dans trop de cas, les gens atteints d'un mas, d'un toucher de shaitan ou de mauvais œil, les femmes en sont plus nombreuses que les hommes. Par cette cause-là. Donc, regardez aujourd'hui quand les femmes sortent dans la rue, comment elles sont habillées, comment elles se pavanent. Les chaussures, lorsqu'elles marchent, le bruit que ça fait, les coupes de cheveux, les parfums, les vêtements extravagants, ce qui s'ensuit. D'accord? Que pensez-vous qui va en résulter? Mauvais œil. Donc, ce hukm que la femme reste chez elle est une protection également contre le mauvais œil. Car même en étant habillée avec son jilbab, couverte intégralement comme ses doigts, elle n'est pas à l'abri d'être atteinte d'un mauvais œil par d'autres personnes. D'où le fait qu'on ne veut pas effrayer les gens contre le mauvais œil, car celui qui fait ses ibadat, qui fait ses askar du matin, du soir, après les salawat, en toutes circonstances, fait les askar, biznillah, il sera protégé. Mais quoi qu'il en soit, parmi les causes de protection également, de ne pas s'exposer. Et principalement, la femme. Car la femme, quand elle sort, shaitan l'embellit. N'oubliez pas, donc elle attire les regards. Et ces regards peuvent lui être préjudiciables dans sa personne. Donc il y a beaucoup de hikmah, beaucoup de sagesse à ce que les femmes restent chez elles. Et comme on l'a dit, ce n'est pas une punition en soi. C'est une protection. C'est une protection. Cependant, si la femme a besoin de sortir pour maintes raisons légitimes, elle demande la permission à son époux. Et là, il revient à ce dernier d'accepter. Cela est meilleur s'il n'a pas de raison de refuser. Sinon, s'il refuse, il a le droit de refuser également. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة مرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. Par contre, il a dit une chose importante. Lorsque la femme d'entre vous demande la permission pour aller au masjid, alors que l'époux ne l'interdise pas. Et si elle sort pour un besoin, voir ses parents, voir une amie, une bonne fréquentation, acheter une chose sans fitonne qui s'expose devant elle, ou même sortir pour aller voir, pour respirer un petit peu, parce que rester souvent à la maison, c'est vrai que c'est difficile. Donc des fois, prendre l'air, d'accord, son mari sort avec elle, ou elle est sortie avec, accompagnée de ses maharim, ou si même seule, si ce n'est pas loin, ou un lieu qui est dangereux, ou qu'il soit nuisible, il peut la laisser, d'accord, pour la faire respirer un peu. Elle a le droit de cela. Ça fait partie du convenable dans le mode de vie qu'on a avec elle. Mais il y a des conditions. Si elle sort, elle sort couverte. D'accord? Elle ne sort pas parfumée. La femme qui sort parfumée, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'ina zaniya. La femme qui sort en étant parfumée, que les hommes sortent son parfum, il dit que c'est une fornicatrice celle-ci. Même si elle n'aime pas forniquer, le jugement qui va lui être attribué dans le descriptif et non pas dans les sentences, c'est qu'elle sera considérée comme étant une femme qui veut attirer les hommes. D'accord? Et surtout à cette époque où le parfum des femmes sent très fort, plus fort que celui des hommes. Naam. Donc, sa sortie ne doit pas être une source de fitna pour autrui. Wa qalat Aisha, radhiyallahu anha, طيب. قالت عائشة, لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث نساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. Elle a dit, Aïcha, à son époque, c'est-à-dire à l'époque des Sahaba et des Tabi'in, qui est le meilleur siècle après celui du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, si jamais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voyez ce que les femmes aujourd'hui provoquent, il les aurait interdit d'aller au masjid comme les filles des Bani Israël ont été interdites de masjid. Et dans un hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ittaqu ad-dunya wa ittaqu an-nisa fa inna awwal fitnat bani Israël kanat fi nisa. Il a dit craignez la dunya. Protégez-vous de la dunya, de la fitna de la dunya et protégez-vous de la fitna de la femme car la première tentation, les troubles qui ont atteint les Bani Israël étaient à cause de la femme. Vous comprenez? Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Cela a toujours été de la sorte. La femme est la fitna la plus dangereuse pour l'homme. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man taraktu min fitnat a ba'di ala rijal adhar min fitnat an-nisa. Je n'ai pas laissé de fitna plus nuisible pour l'homme après moi que celle des femmes. Et il n'y a pas de contradiction avec son colloque qu'il dit an li kulli umma fitna wa fitnat ummati al-mal. Que chaque communauté a une tentation, un trouble, et la tentation de ma communauté, c'est l'argent. Là, ce hadith parle de la communauté dans son ensemble. Hommes, femmes, enfants, vieux, ainsi de suite. Sauf que la fitna des femmes, elle est particulière pour les hommes. Et également, cette fitna, elle va à l'inverse, que les hommes sont fitna pour les femmes. Mais comme l'homme, lui, est dans le besoin de sortir, c'est lui qui doit travailler et faire les causes, donc, qui est plus à même de rester préservé à l'intérieur, dans le foyer, c'est son épouse. Non. Donc cela est une logique. Et cela même dans les gens, dans le passé, c'était comme ça. Tout ce qu'on voit actuellement là, ce sont des choses nouvelles. Ce qu'ils appellent l'émancipation de la femme, c'est un phénomène nouveau à Fouen. Il y a encore un demi-siècle, on ne voyait pas les choses comme ça. Il y a encore un siècle, demandez à vos grands-parents, demandez même à vos parents, ceux qui sont des générations de... Bon, c'est vrai que maintenant, il y a des jeunes parmi vous, des générations de 2000, eux, ils ne connaissent pas trop, mais ceux qui sont nés... avant les générations 80, fin 90 ou avant cela, demandez à vos parents, demandez à vos grands-parents et vous diront comment étaient les choses auparavant. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une chose qui est nouvelle. D'accord ? C'est une chose qui est nouvelle. Donc la femme, si elle sort pour aller au masjid, elle demande la permission. D'accord ? Et elle sort dans les conditions valables. Donc faire la salat au masjid pour la femme, cela lui est permis. Mais en réalité, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْلُنَهُنَّ que leurs maisons sont meilleures pour elles, pour leur salat. Elles ont plus de récompenses à faire salat dans leur chambre isolée qu'au masjid. Même à Mecca et même à Al-Madinah, là où les salawats sont multipliés. Car lorsqu'il a dit وَبُيُوتُهُنَّ خَيْلُنَهُنَّ que leurs demeures sont meilleures pour elles, il a dit ça alors qu'il était à Al-Madinah. Et malgré cela, leur salat chez elles, dans leur pièce privée, cela l'aurait meilleur. Naam. Ibn Mas'ud, sa femme Zaynab, lui demanda un jilbab. Tu vois, un jilbab. Et lui a dit, un akikhel jilbab. Qalat mahu qala baytuk. Il lui a dit, tu es le meilleur des jilbabs. Le jilbab qu'Allah t'a donné, le meilleur jilbab. Elle a dit, c'est lequel? Elle dit, ton foyer, ta maison. C'est le meilleur jilbab que tu puisses avoir. Non pas qu'il lui interdit d'en avoir un, mais faire comprendre que plus tu restes chez toi, et plus tu préserves, et plus cela est préféré auprès d'Allah Azawajel, et mieux cela est pour toi. Donc n'oubliez pas, notre but c'est de plaire Allah Azawajel. Donc une femme qui reste chez elle, plaît plus à Allah Azawajel qu'une femme qui sort. Non. Thumma zakara aqwal al-min al-ulama. Il cita, bon, là je vais directement dire en français parce que sinon ça va tarder. Il cita des paroles d'Ibn Qudama et de An-Nawawi qui disent que le fait que le mari, il soit interdit au mari d'interdire à son épouse de sortir pour aller au masjid, ils ont dit cette interdiction ala tahrim tanzih nahi tanzih wala tahrim, qu'il est interdit à l'homme d'interdire à sa femme de se rendre au masjid si elle demande la permission et que les conditions sont remplies, cette interdiction à l'homme, c'est juste détestable et non pas illicite. C'est-à-dire que si Ahmed dit non à sa femme pour le masjid, ce n'est pas haram sur lui. Il peut lui dire non. Juste cela est détestable, s'il n'y a pas de raison valable. D'accord ? Donc ne pas dire, une femme par exemple, elle dit à son mari, je veux aller au masjid s'il te plaît, et dit non. Et dit, t'as pas vraiment empêché le Nabi sans femme de telle et telle chose. Non, ce n'est pas un dalil pour elle. Ce hadith, c'est juste que cela lui est détestable et non pas haram. Donc si Amil lui empêche d'aller au masjid, il n'a pas commis de péché. Même s'il empêche d'aller voir ses parents et qu'il y a une raison valable, il peut le faire. D'accord ? Il peut le faire. Quand Ahmed, رحمه الله تعالى في مراتها في امرأتين لا زوج وأم مريضة تعد زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. Il a dit l'imam Ahmed, d'une femme qui est mariée et dont sa mère est malade, c'est-à-dire à l'épouse. D'accord? Il dit que l'obéissance à son époux prédomine, d'accord, sur sa mère. C'est-à-dire même le fait d'aller voir sa mère qui est malade. Sauf si son mari lui autorise. C'est-à-dire qu'elle ne va pas voir sa mère sans que son mari lui autorise. Et si jamais son mari lui a interdit d'y aller, si elle va voir sa mère, elle aura commis un péché. Ça peut choquer des gens. D'accord? Mais c'est le hukm shar'i qu'il y a. Et je me rappelle avoir entendu une fois un audio de Ismaïl Mounir, ce Dajjal. D'accord? Peut-être que vous le connaissez, un grand prédicateur de l'égarement, à des paroles de nifaq et de kufr à 100%, qui disait que c'était du shirk que la femme ait demandé à son époux pour aller voir ses parents. C'est pas du shirk. C'est ça la sunna. Ah, mais du shirk, lui, il en a eu dans ses paroles. Des choses qui sont haram, il les a rendues permises, c'est tout le contraire qu'il fait cet homme-là. Donc attention à lui. Et il dit, quel est le cheikh de Sam Taymiya? فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. Il dit que la femme, en fait, auprès de son époux, elle est comme une captive, en fait. Même le mot talaq, talaq, qui veut dire divorcer en français, en réalité en arabe, ça veut dire libérer. Car quand la femme, elle est mariée, elle a des devoirs envers son époux. Et les devoirs de l'époux sont très grands. Attention! Elle aussi, elle a des droits. Cela va venir dans le livre, Inch'Allah, par la suite. Mais de base, elle est sous la régie d'un homme. Elle doit lui obéir et autre. Donc il a dit, Cheikh l'Islam, qu'elle n'a pas à sortir de son foyer, sauf avec sa permission. Même si son père lui dit de sortir, elle ne sort pas si son mari ne lui a pas dit de sortir. Même si sa mère lui dit de sortir, elle ne sort pas si son mari ne lui a pas dit de sortir. D'accord? Et cela avec unanimité des imams. Maintenant, on part dans un cas de base normal. Après, s'il y a une nécessité, par exemple, son mari, il est malade et peut pas répondre et qu'il faut qu'elle sorte pour une urgence, à ce moment-là, je pense que son mari sera assez compréhensible et indulgent pour ne pas lui en vouloir. D'accord? Ou autre. Donc là, on cite le droit. Ça ne veut pas dire qu'on incite le mari à l'empêcher de sortir. Faut bien comprendre. On parle de hukm shar'i, c'est tout. Maintenant, on dit pas au mari, si ton épouse veut aller voir sa mère, tu l'empêches. Non. Parce que cela, justement, va à l'opposé du ma'rouf, du convenable. Elle veut voir sa mère, laisse aller voir sa mère. Cela fait partie de l'entretien des liens de parenté. Tant qu'il n'y a pas un mal plus grand, bien sûr, parce que des fois, on voit les parents, et chez les parents, il y a des catastrophes. Il y a du haram à tout va, et cela influe sur l'épouse, et donc le mari veut préserver son épouse, donc il dit, non, tu ne vas pas chez ta mère. Non pas que je ne veux t'en empêcher, mais chez ta mère, il y a du mal. Quand tu vas là-bas, il y a des hommes. Quand tu vas là-bas, il y a de la musique. Quand tu vas là-bas, il y a de l'alcool. Quand tu vas là-bas, il y a la télévision, ainsi de suite. Donc, je veux pas que tu y ailles. Mais si tu veux, ta mère, elle vient. Par exemple. Ou il s'arrange pour qu'elle voit sa mère ailleurs, dans des meilleures circonstances. Ou il sait que sa mère, c'est une femme qui est très mauvaise. Par exemple, sa mère, elle fait du sihr, elle fait de la sorcellerie. Ou ainsi de suite. Il a peur pour sa femme. Donc, à ce moment-là, il a le droit d'en empêcher. Pour des raisons qui sont valables. Donc, il y a plein de cas de figure, hein. Là, on cite comme ça, un exemple. Donc quand on entend des fois, oui, le frère l'empêche la femme d'aller chez sa mère, il est trop dur, ainsi de suite. Vous ne savez pas pourquoi le frère l'empêche. Peut-être qu'il a des raisons valables. Ne pas se précipiter à juger le frère. Peut-être qu'il sait des choses que vous ne savez pas. Et ainsi de suite. Voyez. Quoi qu'il en soit, quand la femme elle obéit, même si c'est dur pour elle, elle se voit lésée, sache qu'elle est récompensée d'avoir appliqué un ordre légiféré. Non. ثم يقول سادسا سيزيام دروا ألا تأذن لأحد في دخول بيته والجلوس على فراشه إلا بإذنه. Qu'elle ne permette à personne de rentrer chez lui ou de s'asseoir sur son lit ou même sur son fauteuil, qui est le personnel, sans sa permission. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. Il a dit qu'il n'est pas permis à une femme de jeûner alors que son époux est présent sans sa permission, tout comme elle ne lui est pas permis de faire entrer qui que ce soit dans sa maison si ce n'est avec sa permission. Donc personne ne rentre si ce n'est avec l'aval de l'époux dans sa demeure. Et encore moins, on rentre chez lui et on s'assoit sur son lit ou son fauteuil. Cela n'est pas permis. Car le foyer de l'homme, c'est son territoire. Et des fois, des gens rentrent, ils ne veulent pas les voir dans son... Même des proches de la famille. il peut dire à sa femme, ta mère n'entre pas chez moi. Pour X raison. Ta sœur ne rentre pas chez moi. Pour X raison. Foulena, ton amie qui est là, femme de un tel, elle ne rentre pas chez moi. La voisine là-bas, là, elle ne rentre pas chez moi. D'accord? Et encore moins des hommes. Alors, quand le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il y a qu'un bout de roule à la Nissa. Quand l'eau, ou elle raïta le hamou, quand elle hamou le maut. Il a dit, ne rentrez pas chez les femmes. C'est-à-dire, ne pas se mélanger avec les femmes. Prenez garde à n'entrer chez les femmes. Et ils ont dit, et que dis-tu du beau-frère? C'est-à-dire, le frère de l'époux, est-ce qu'il peut rentrer, chez, l'épouse de son frère? Il a dit, le beau-frère, c'est la mort. C'est-à-dire, ton propre frère, il ne rentre pas avec ton épouse. C'est la mort. Car ce genre de situation, ce genre de déplorable, arrive avec les gens dont on se méfie le moins. Non pas que ton frère veut te trahir, ou que ton épouse veut te trahir avec ton frère, mais c'est une chose, elle arrive tellement, c'est, on s'y attend pas, le frère il rentre une fois, deux fois, trois fois, tu n'es pas là. Il a dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la femme s'isole avec un homme, le troisième c'est Shaitan, même ton propre frère. Donc de base, ton propre frère, s'il est droit, il ne rentrera pas auprès de ta femme. S'il connaît le jugement, je parle. Hein. S'il est ignorant, il faut lui enseigner. S'il connaît le jugement, il ne rentrera pas auprès de ta femme en ton absence. De base. C'est ça le hukm de l'islam. Ce qu'on vient de dire là, c'est le caleb du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Maintenant, si tu es là, et qu'elle est couverte, cela est permis. Car le beau-frère n'est pas un mahram pour l'épouse. Ton frère à toi, ton oncle à toi, d'accord ? Ton cousin, et ainsi de suite. Ton père, oui, mais ton frère, non. Car si demain tu meurs, ton frère peut se marier avec ton épouse. Ton oncle peut se marier avec elle. Et comme vous savez, j'ai fait un audio sur les maharim, les gens interdits en mariage, pour ceux qui veulent retourner, où il y a plus de détails par rapport à cela. Taïeb. Thumma qala sabi'an, an takum bi khidmatihi wa shu'un baytihi bi hasab istita'atiha. Donc maintenant, septième droit. Qui est que la femme doit être au service de son époux dans le foyer. Ça veut dire les tâches domestiques, les tâches ménagères, faire à manger, laver les vêtements, ce genre de choses. Car c'était le comportement que les sahabiyettes, elles avaient avec leurs époux. D'accord? Et cela, bien sûr, dans la mesure des possibles, sans surcharge, parce qu'elle peut supporter. Parmi les hadiths qu'il y a eu, c'est que Fatima, la fille du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, faisait les tâches ménagères, la femme de Ali, au tel point qu'elle en avait des corps, au moins. Vous savez, c'est quoi les corps? Les espèces de, la peau dure, là, qu'on a en bas des doigts, sur la paume de la main. Ça, c'est pour les gens qui font les travaux manuels. D'accord? Les gens qui sont manutentionnaires, ou autres qui font des travaux avec les mains, ils sont amenés à voir cela. Tellement elle travaillait dur dans son foyer, et c'est la fille de qui? C'est la fille du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidat al-Jannah, et il est la maîtresse des femmes du paradis. Regardez pourtant comment elle a été traitée dans cette dunya. Ça, c'est un rappel pour les femmes qui se donnent une valeur qu'elles n'ont pas. On dit des femmes qui ont plus de valeur que vous avez plus de tâches que vous. Le shahid, c'est qu'elle avait tellement de tâches qu'elle en avait des corps aux mains. Et une fois, elle a entendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un servant, un valet. Donc, elle en a parlé à Aïcha pour dire au prophète qu'il lui prête ce valet afin qu'il aide à faire les tâches domestiques. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rendu auprès d'eux. C'est-à-dire, Fatima et Ali. D'accord? Il s'est assis entre les deux pour leur parler. Il a dit, Ala adullukuma ala khayl mimma sa'altuma, iza arastuma madaji'akuma, au awaituma ila firashikuma, fasabbiha salasan wa salasin, وأحمد ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين فهو خير لكما من الخادم. Il a dit, ne vais-je pas vous indiquer ce qui est meilleur pour vous que ce que vous avez demandé, c'est-à-dire d'avoir un esclave, un valet. Il a dit, si jamais vous prenez votre lit, c'est-à-dire pour aller dormir, alors faites le tasbih 33 fois, c'est-à-dire le fait de dire subhanallah 33 fois. Et faites le tahmid 33 fois, le fait de dire alhamdulillah 33 fois. Et faites le takbir 34 fois. Fait de dire « Allahu Akbar » 34 fois. Cela vous est meilleur que d'avoir un valet. Donc regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa propre fille, celle qui lui ressemblait le plus parmi ses filles, si c'était pas obligatoire pour elle, il aurait dit « Ali, aide ta femme. Elle est dépassée, surchargée. Aide-la. » Mais non. Il lui a indiqué quoi? De faire un zikr avant de dormir. Et par ce zikr, il y aura une baraka dans les tâches ménagères, tant pour l'homme que pour la femme. D'accord? Donc, bien attention, comme le Nabi Sallam s'est comporté avec sa propre fille. Aujourd'hui, tu verras les pères, ils arrivent et disent, hey, aide ma fille à faire ça, va faire la vaisselle, fais ci, fais ça. Il lui impose, alors qu'il, non, c'est pas une chose qui est obligatoire. S'il le fait de lui-même, alhamdoulilah. Mais dire que c'est un droit de la femme que le mari fasse la chose, non. Et d'ailleurs, on va citer une parole de Ulama qui le dit. Il cita également l'histoire de Asma, la fille de Abu Bakr, c'est-à-dire que le meilleur des hommes dans l'absolu après les prophètes, qui était marié avec Zubayr, et pourtant faisait toutes les tâches. Elle allait chercher de l'eau, elle allait chercher les graines, elle donnait à manger à son cheval, et ainsi de suite, en dehors du foyer. Des tâches qui étaient très difficiles pour elle. D'accord? Elle le faisait quand même. Car c'était son rôle. En tant qu'épouse. Et les femmes des Sahaba étaient comme ça. Elles faisaient le pain, elles faisaient à manger, elles nettoyaient la maison, ainsi de suite. Pour les hommes. Et même quand les Sahaba avaient des invités chez eux, c'est leur femme qui les servait. Mais elles étaient couvertes. D'accord? Elles étaient couvertes. C'est-à-dire, au moment où il n'y a pas de fitna, si tu as des invités chez toi, homme, ta femme peut venir servir le thé ou poser les plats, ainsi de suite, mais qu'elle soit couverte, bien évidemment. Et aussi, la khidma, comme il a dit Cheikh Al-Othaymeen, ça revient au urf, aux coutumes du pays, en fait. Par exemple, tu as des pays, la coutume, c'est que la femme, elle a un valet. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de valet. Alors, par exemple, des femmes de ménage à son service. Elle ne fait rien à la maison, mais le mari ou elle, il paye une femme de ménage. Si c'est la coutume dans le pays, alors il n'y a pas de mal. Et si dans le pays, la coutume, c'est que la femme, elle doit tout faire, alors celle qui fera tout, par exemple. Donc en fait, la khidma, elle revient déjà aux moyens. Si les hommes, ils sont aisés, ils sont riches, ils veulent payer quelqu'un pour que la femme n'ait pas à le faire, ils ont le droit. On ne va pas dire, non, c'est ta femme qui doit faire le ménage. Il dit, moi, je paye une femme de ménage. Non, c'est ta femme qui doit le faire. Non, ce n'est pas obligatoire à ce moment-là. Il a les moyens de payer quelqu'un pour le faire, alors il le fait. Et sa femme, alhamdoulilah, fait autre chose, par exemple. D'accord, d'utile. Sans quoi, si dans le pays, c'est les femmes qui font les tâches ménagères, alors à ce moment-là, elle doit le faire. Et bien sûr, avec, selon ses capacités. Même avec un esclave. D'accord, dans le cas où quelqu'un aurait un esclave, dans les règles où l'esclavage serait mis en place, d'accord, eh bien, il n'est pas permis de le surcharger. Alors que d'être ton épouse, qui a en plus le droit d'avoir du convenable pour elle. Donc ensuite, il y a eu un khilaf par rapport à certains ulama qui disent que non. Là, je lis directement le récapitulatif hein, pour ne pas m'attarder, car déjà, j'ai fait plus long que prévu. Il y a des ulama qui disent non. Qu'est-ce qui est obligatoire pour la femme? C'est juste d'obéir au mari pour les rapports intimes. Le reste, elle n'a pas à le faire. D'accord? Le reste, elle n'a pas à le faire. Et des ulama disent comment elle n'a pas à le faire? Parce qu'ils répondent à cette argumentation par laquelle ils disent lorsque le mari il a des rapports avec sa femme, qui est-ce qui prend du plaisir? L'homme, mais également la femme. Ils disent naam. Donc ils disent donc l'homme c'est quoi son avantage à lui alors? Il paye une dot pour la femme, un mahr, comme cela va venir dans le droit de la femme, il paye une dot. Après il a des rapports intimes avec elle, il prend du plaisir, mais elle aussi elle prend du plaisir. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Et l'homme, il va travailler, il fait des tâches à l'extérieur, il amène le risque, parce que parmi les droits de la femme, c'est qu'il dépense pour elle. Ça, on va le voir après, Inch'Allah. Il doit dépenser pour elle, la nourrir, l'habiller, la revêtir, et ce qui s'ensuit. Donc, la maison, qui est-ce qui s'en occupe de la maison? L'homme également. Tu vois? Donc ils disent non, ça c'est le rôle de la femme. Car justement, tout ce qu'il fait comme dépense pour elle, et qu'il la prend en charge, le minimum pour elle, c'est qu'en contrepartie, elle s'occupe de son foyer. Sans quoi, ce serait injuste. La femme, elle est là toute la journée, elle ne fait rien. Elle est prise en charge, logée, nourrie et blanchie. En plus, mashallah, elle a des rapports intimes, elle est prise dans sa chasteté. Mashallah, quand elle s'est mariée, on lui donne de l'argent. Et après ça, elle ne fait rien. Elle n'a pas de devoir dans la maison. Donc, les ulama disent non. Et les femmes des sahaba agitaient de la sorte. Et on a l'exemple de Fatima, et voilà. D'accord? Donc là, je vous ai, il cite le calame de Cheikh al-Islam qui dit cela, de Cheikh al-Bani qui dit cela. J'ai pas lu là de mot à mot, mais je vous donne le résumé, le khulasa, comme on dit. Taïb. Ensuite, l'auteur, il dit, pour finir ce haq, il dit que le col, justement, de l'obligation du service de la femme envers son mari, c'est la vie qui est prépondérant, qui est le plus fort. Cependant, cela ne veut pas dire que le mari ne peut pas aider. Là, il parle juste du jugement shar'i. D'accord? Et Aïcha, qalat, kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi mihnat ahlihi fi idha hadarat as-salat kharaja lis-salat. Rawi al-Bukhari. Elle fut interrogée, que faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la maison? Elle dit, il était au service de la maison, du foyer, il aidait sa famille. Et lorsque la salat était appelée, la vanne, il sortait pour la salat. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aidait son épouse. Maintenant, c'était quoi les tâches qu'il faisait? Par exemple, il allait traire les brebis, il cousait ses propres vêtements quand ses vêtements étaient déchirés, il les cousait lui-même, ainsi de suite. D'accord? Il faut comprendre les tâches auxquelles il participait. Et Cheikh Al-Uthaymeen avait été interrogé par rapport à cela. Encore une fatwa que j'ai lu de lui. Il disait, car déjà on avait pris ce fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille dans la maison, et ils ont exagéré dans la chose au point de faire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait des tâches ménagères que Aïcha ne faisait pas. Donc il a dit, oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aidait à la maison à faire certaines tâches. D'accord? Certaines tâches dans la maison. Mais est-ce que cela veut dire qu'il balayait alors que Aïcha dormait? Il a dit jamais de la vie. Jamais. Aïcha n'aurait jamais accepté cela. Qu'elle dorme, et que son mari, c'est lui qui balaye, pendant qu'elle, elle dort. Il dit, Aïcha, d'accord? Ça, c'était pas son comportement, jamais. Pour elle, ça aurait été déshonorant de voir son mari faire une tâche pendant qu'elle, elle se repose. Sauf dans le cas où elle serait malade, bien sûr. Dans le cas où elle serait malade. Là, c'est autre chose, d'accord? Ta femme, elle est malade, mais évidemment, tu vas aider dans les tâches ménagères. Sans quoi, tu seras le premier à en subir les conséquences quand ta maison va se salir et les choses vont s'encombrer, d'accord? Et toi-même, tu verras cela, ça va jouer sur toi. Donc, le minimum, d'accord? C'est le ta'awun, l'entraide avec ta femme. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna Allah fi a'un al-abd, makan al-abd fi a'un akhihi, que Allah assiste son serviteur, tant que le serviteur assiste son frère. Et quand on dit son frère, c'est valable même pour sa sœur ou son épouse. C'est le droit du musulman sur le musulman. Donc là, on parle de droit shari'i. Le droit shari'i n'empêche pas l'entraide. Et cela fait plaisir à ta femme que tu l'aides. Elle montre que c'est une preuve de compassion et de rahma pour elle. Mais sans abuser. C'est quoi l'abus dont je parle? On m'a raconté des histoires. Un exemple, une fois qu'il était arrivé, ah ça c'est un demage à l'époque, hein, avec des tollab. Il y avait un frère, lorsqu'il se levait, il faisait le lit. Il était sa femme, il faisait le lit. D'accord? Et tout. Le matin, il partait, il faisait le lit. Et un jour, il ne l'a pas fait. Sa femme vient le voir, elle dit, « Hey, t'as pas fait le lit aujourd'hui. » Il la regarde en disant, « Hey, tu vois là, je t'ai aidé, je te donne la main, tu manges deux bras. Faire le lit, c'est pas un droit que t'as, je l'ai fait pour t'aider. Maintenant que le jour où je le fais pas, je vais pas me le réclamer. Faut pas exagérer non plus. » C'est ça qu'on veut faire comprendre aux sœurs. Lorsque les maris aident, le jour où ils n'aident pas, faut pas lui dire, « Hey, t'as pas fait la vaisselle aujourd'hui. » Il dit, « Mais à la base, j'ai pas à la faire, je l'ai faite pour t'aider, mais si je l'ai pas faite aujourd'hui, ne me le réclame pas. » Et aujourd'hui, t'as pas fait telle chose. Il dit, non, mais je l'ai pas fait parce que pour te montrer que, à la base, ce n'est pas wajib que je le fasse. Je le fais pour t'aider. Donc, si jamais je le fais pas un jour, ne me le réclame pas. D'accord? Ne crois pas que je t'aurais lésé en faisant cela. Parce que des fois, t'as des sœurs, elles exagèrent. Quand le mari n'aide pas, elles se plaignent. Donc, regardez bien. Est-ce que Fatima s'est plainte, est partie se plaindre de Ali, au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Elle a demandé un valet. Elle a pas dit, Ali, aide-moi. J'ai des corps aux mains. J'en peux plus. Je suis dépassé. Et le Nabi Salam n'a pas dit à Ali, aide-la, elle n'en peut plus, elle est dépassée. D'accord? Donc, le juste milieu, ni tu n'aides pas du tout, tant que tu peux le faire, et ni si tu aides, on te demande, le jour où tu n'aides pas, on te réclame, comme cela c'était un droit. Il faut bien mettre les choses à leur place. Et le juste milieu, et si le mari l'aide, c'est de bienfaisance. Wa qala ta'ala, wa ma ala al-mursalina min sabil, que les gens qui sont bienfaisants, on ne peut pas leur faire de reproches. S'il fait une chose de lui-même pour t'aider, pas de reproche, il n'en fait pas. Ce n'est pas un devoir. Mais c'est une marque de miséricorde, une marque de compassion, et cela, bien sûr, embellit le comportement, et cela ajoute de l'amour dans le couple. D'accord? Donc celui qui peut le faire, qu'il le fasse. Et des fois, pas de mal pour éduquer ta femme de ne pas le faire pour lui montrer que, des fois, tu as des femmes, elles se reposent sur toi. Elle voit justement, comme disait Cheikh Al-Uthaymeen, elle va dormir en espérant que tu ailles balayer pour elle. Elle dit, dis non, je suis désolé, je ne vais pas le faire. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que je n'apprécie pas ce comportement-là. C'est comme un manque de respect. Donc, le juste milieu est chacun dans la circonstance qui est appropriée et qui est adéquate. Chacun connaît sa femme, chacun connaît comment éduquer sa femme à la maison, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. Alhamdoulilah, il n'y a pas de coupure. J'espère que cela aura été profitable. Et comme on dit, ce qu'on expose là, c'est le jugement shar'i. Après, chacun dans son foyer avec sa femme, il agit comme bon lui semble par rapport à cela. Certains ils font beaucoup, certains ils font pas beaucoup, ainsi de suite. Et la femme est patiente et qu'elle n'oublie pas que elle est récompensée auprès d'Allah Azawajel, que son mari l'aide ou qu'il n'aide pas, quand elle fait son devoir, elle est récompensée. Et le but, c'est de plaire à Allah en premier lieu. Le but, c'est de plaire à Allah Azawajel en premier lieu. وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que je n'ai créé les djinns et les ors, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Elle met l'irtisef dans son cœur, c'est-à-dire la, quand elle fait la chose, pour pas que ça devienne un fardeau, elle met ce qu'on appelle l'irtisef, c'est le fait de chercher la récompense. Et quand elle fait cela, c'est l'adoration. Il y a Ourti, quand tu fais la vaisselle, t'oublies à ton mari, tu prends de la récompense. Quand tu balayes, tu prends la récompense. Tu passes aspirateur, tu mets la récompense. Tu repasses le linge, t'es récompensé. Yom Kiyama, tout ça, c'est à ton avantage. D'accord? Ne te laisse pas avoir par les femmes qui disent, ouais, t'es exploité par ton mari, t'es soumise, t'es maltraitée, t'es une femme de ménage, ainsi de suite. T'es une kunchita, je ne sais quoi. Tu dis non. Je suis une servante d'Allah Azawajal. Ce que je fais là, moi, je le fais pour Allah Azawajal en premier lieu. Même si j'aurais pas eu de mari, j'aurais fait chez moi, de toute façon. J'aurais été célibataire, je l'aurais fait. J'aurais été chez mon père, je l'aurais fait pour mon père. Donc là, j'ai fait pour mon mari qui a encore plus de droits. Ne te fais pas leurrer par ces femmes qui veulent te faire croire que tu es maltraité, tu es rabaissé. Ce n'est pas vrai. Yom Kiyama, elles vont pleurer alors que toi, tu seras élevé. Bismillah ta'ala. N'oublie jamais cela. Alir tisaim fil amel. Cherche ta récompense dans les actes. Naam. Donc là, s'achève le ders. Et on espère que cela aura été profitable pour vous. Et ce ders-là, en fait, sera accouplé dans le montage audio avec celui d'hier. D'accord? Ils seront mis ensemble tous les deux, normalement. Bi'iznillah ta'ala. Fanaktafi biyad al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.